Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Christos Anesti, Alephos Anesti, c'est ainsi dans l'Orient que l'on célèbre la résurrection du Seigneur qui a lieu aujourd'hui selon le calendrier julien. Prions tout spécialement pour nos frères orientaux. Et en Orient, il y a beaucoup de chrétiens qui fêteront Pâques aujourd'hui. Il y a des églises catholiques de rite oriental qui nous sont unies, qui sont unies sous l'autorité du Saint-Père. Il y a 18 millions de fidèles, 23 églises, je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Je vais vous en donner quelques noms, je ne peux pas toutes les énumérer, qu'elles me pardonnent, mais il y a les catholiques ukrainiens de rite byzantin, il y a les melkites, les maronites, les coptes, les syriaques, les chaldéens, les ruthènes qui me sont chers en Hongrie, les syro-malabar, les syro-malankar, l'église érythréenne, l'église éthiopienne, l'église arménienne et beaucoup d'autres encore. Et bien sûr, je ne veux pas oublier nos frères séparés qui sont les orthodoxes, qui sont aussi répartis en de nombreuses églises. Prions les uns pour les autres en cette joie où nous sommes dans l'octave de Pâques pour nous. Ils célèbrent Pâques aujourd'hui et nous l'avons célébré il y a 8 jours. Et nous fermons ce cycle pour nous de 8 jours avec ce dimanche in albis où l'on remettait le vêtement blanc la veille, le samedi, à ceux qui avaient été baptisés. Alors c'est encore une occasion pour nous de prier tout particulièrement pour ceux qui auraient dû être baptisés à Pâques. Le Seigneur les garde dans son cœur, ils sont déjà baptisés de désir, autant qu'ils le veulent, et nous réaliserons au plus tôt, si Dieu le veut, ce baptême, si possible, à la Pentecôte. Voilà de quoi introduire profondément dans la réalité de la vie de l'Église notre méditation sur cet évangile des apparitions aux apôtres. Il s'agit de la 6e apparition, si je compte bien, puisqu'il y a déjà le jour de Pâques, et puis l'apparition qui a lieu 8 jours après. Voilà pourquoi nous entendons cet évangile. Il y a déjà eu au jour de Pâques l'apparition à la Vierge Marie, reportez-vous à ma méditation, à ma prédication du samedi saint, l'apparition à Marie-Madeleine, Marie, femme de Cléophas et Salomé, l'apparition à Marie-Madeleine ensuite dans le jardin, l'apparition à Pierre, l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Et voici que nous allons méditer 2 apparitions, celle du dimanche de Pâques, il y a 8 jours, le soir, et puis celle à Thomas, plus les autres apôtres, 8 jours plus tard. Voyons-les séparément. Tout d'abord, l'apparition aux 10. Oui, 10 parce que Judas est déjà parti et que Thomas n'est pas là. Nous y reviendrons. Qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il apparaît, il console ses disciples et il leur donne une mission. Consolation et mission, apaisement que le Seigneur apporte, c'est lui qui apaise les cœurs et voilà pourquoi sa salutation est celle de la paix. La paix soit avec vous. Salutation, vous le savez, dans la liturgie latine qui est réservée au cours de la messe à l'évêque, aux successeurs des apôtres, eux qui représentent pour nous le Christ et qui nous portent. Voilà pourquoi nous prierons spécialement aujourd'hui pour Monseigneur au Petit. Voilà cette paix que le Seigneur nous apporte et qui nous donne une grande consolation. N'ayez pas peur de recevoir des consolations du Seigneur. N'ayez pas peur de connaître une joie intérieure jusqu'aux larmes, car c'est Dieu qui console. Non, la foi n'est pas une invention qu'on a inventée pour se consoler, car c'est un argument facile parfois que vous entendez, mais la foi est une consolation. Ce n'est pas parce que la caresse, la gentillesse, la bonté, l'amour qu'on vous porte vous sont une joie et une consolation qu'immédiatement vous allez vous dire « Ah bah alors voilà, on a inventé ça ». Non, il y a une réalité de cette joie, de cette consolation, de cette douceur que l'on reçoit. Quand on vous fait un cadeau, vous êtes content et vous ne trouvez pas ça louche en vous disant que ça doit être pas vrai parce que justement ça vous console. Quelle réflexion idiote et complètement à l'envers. Alors bien sûr, il y aurait un danger, nous ne recherchons pas les consolations de Dieu, ce que nous cherchons, c'est le Dieu des consolations. Nous cherchons Dieu qui est la consolation de notre âme, en qui nous pouvons avoir et en qui seulement nous pouvons vraiment être en paix, avoir cette paix qui vient de lui, qui n'est pas une paix humaine, mais une paix divine. Voilà ce qu'il fait d'abord et avant tout, il vient et il apporte la paix. Les chrétiens sont d'ailleurs des semeurs de paix et de joie. C'est à cela qu'on doit les reconnaître. Et puis le Seigneur leur donne une mission, immédiatement. Il leur apporte la paix et il va souffler sur eux. Une petite Pentecôte, une première Pentecôte. Il va souffler sur eux pour leur donner la mission essentielle qu'il confie à l'Église, le pardon des péchés. Combien on a oublié que c'était la mission essentielle de l'Église. Combien on a oublié que c'est la raison essentielle de la venue du Christ. Nous libérer du péché, nous pardonner. Dans un monde qui a oublié ce qu'était le péché, qui ne connaît que le mal physique, eh bien, il nous faut rappeler que le mal, dans toutes ses formes, a pour origine la séparation d'avec le bien qui est Dieu. Un mal est toujours une privation, un mal est toujours un manque d'être, un mal est toujours l'absence de Dieu. Alors oui, le Seigneur est venu pour pardonner les péchés et c'est la mission essentielle qu'il donne à ses apôtres. Allez, pardonner les péchés, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Le grand pouvoir des clés que nous tenons du Seigneur lui-même, c'est la mission essentielle des apôtres aujourd'hui encore. Si nous célébrons la messe sans cesse, c'est pour pouvoir répandre les bienfaits de l'offrande du Christ sur la croix, faite une fois pour toutes, afin que soit répandu sur le monde ce rachat, ce sacrifice éternel, car Dieu est en agonie jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que toutes les âmes qui veulent venir à lui soient rachetées, jusqu'à ce que ma consommation arrive jusqu'à l'Apocalypse. Voilà notre mission extraordinaire et éternelle, temporelle, qui nous est donnée, apporter cette paix au monde afin de lui annoncer que ses péchés sont pardonnés. C'était ça, l'essentiel, la pointe, on pourrait dire beaucoup d'autres choses certainement, de l'Évangile aujourd'hui sur l'apparition faite aux 10. Mais il y a plus, et nous sommes 8 jours plus tard, transportons-nous maintenant aujourd'hui, et voilà que le Seigneur revient pour une apparition à Thomas. Je dis l'apparition à Thomas, je n'ai pas oublié que les autres étaient là aussi, mais on a l'impression que le Seigneur est revenu pour Thomas, parce qu'il arrive, il leur redit la même chose, la paix soit avec vous, et immédiatement, il se dirige vers Thomas, qui, devant le récit de ses confrères, des apôtres, qui lui ont dit « Mais le Seigneur est vraiment ressuscité, nous l'avons vu », leur dit « Mais si je ne vois pas moi-même, si je ne touche pas, alors non, je ne croirai pas ». Combien de pharisiens aujourd'hui encore regardent Thomas du coin de l'œil en disant « Ah, le mauvais apôtre qui n'a pas cru au Seigneur ». Vous vous trompez complètement si vous pensez cela, car le Seigneur ne l'a pas entendu de cette oreille. Au contraire, et si le Seigneur avait pensé cela, il ne serait pas venu pour apparaître tout spécialement à Thomas. Réfléchissez bien, le Seigneur fortifie ses apôtres. La foi n'est pas quelque chose de donné une fois pour toutes, une illumination pour toujours. Elle est une progression permanente qui se conjoint de nos chutes et de nos doutes. Bienheureux Thomas qui douta que le Seigneur fût ressuscité. Penchons-nous un moment sur Thomas et voyons quelle est sa vérification de la foi. Thomas, c'est un apôtre extraordinaire. Pourquoi croyez-vous qu'il ne fut pas présent la première fois? Eh bien, reportez-vous à l'Évangile, tout est toujours dans l'Évangile. Il est écrit expressément que les apôtres étaient enfermés par peur des Juifs. Eh bien, Thomas est celui qui n'a pas peur. Celui qui, malgré le confinement obligatoire, est sorti, peut-être pour faire des courses, peut-être parce qu'il fallait bien manger quand même tout confinés qu'ils étaient, nous savons bien de quoi il s'agit, peut-être tout simplement qu'il n'avait pas peur qu'on le prît, qu'on l'arrêta et qu'on le crucifia lui aussi. Thomas est l'intrépide. J'en veux pour preuve d'ailleurs, souvenez-vous, il n'y a pas 10 jours, nous avons lu cet évangile. Alors que le Seigneur annonce à ses disciples qu'il va monter à la Pâque à Jérusalem, que tous lui disent, et pour une fois même Pierre, l'intrépide, tous lui disent peut-être que ce n'est pas très prudent, parce qu'on cherche à te tuer, et c'est pas très prudent de monter à Jérusalem. Qui est celui qui va s'élever au milieu des disciples pour leur dire « Eh bien, montons et mourons avec lui ». Alors n'allez pas me dire que Thomas n'a pas la foi, c'est ridicule. Le Seigneur a reconnu la divinité du Christ, sinon il ne serait pas monté à Jérusalem, il n'aurait pas encouragé les autres à le suivre. Mais voilà, Thomas a son caractère. Et son caractère, c'est qu'il aime à vérifier, il aime à comprendre. Il est le protecteur de l'esprit scientifique, peut-être, lequel n'est pas contraire à l'esprit de Dieu. tout esprit scientifique est déjà une participation de l'intelligence divine, un don de Dieu. Alors oui, Thomas aime bien comprendre. Rappelez-vous en Matthieu 11, eh bien, non, c'est en Jean 11, pardon, alors que le Seigneur annonce son départ, qu'il leur dit « Je m'en vais vers le Père, je vais vous préparer une place, ne soyez pas tristes ». Tout le monde reste bouche bée. Mais voilà qu'au milieu, il y en a un qui lève le doigt et qui dit « Bah, sous forme d'un reproche au Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Alors, comment pourrait-on savoir le chemin ?» Heureusement qu'il a posé cette question, saint Thomas, l'apôtre extraordinaire. Sinon, nous n'aurions pas eu la réponse du Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors moi, je veux faire mon chemin avec Thomas. Je veux aller avec lui, car la foi se conjoint parfois du péché et même du doute. Oui, le doute n'est pas bon, c'est une épreuve, mais qui n'a pas connu de doute dans sa vie ? Peut-être qui n'a jamais connu de doute n'a pu jamais connaître une foi vraie. Je ne m'avance pas trop. Certains saints ont dit n'avoir jamais eu de doute de foi. Je me rapporterai à saint Jean-Paul II qui avait dit n'avoir jamais eu de doute de foi. C'est une grâce. Mais si vous avez des doutes, s'il vous vient parfois l'idée que peut-être, est-ce bien utile, est-ce bien vrai, est-ce bien... Eh bien, c'est une épreuve de foi. Invoquez saint Thomas, le patron de ceux qui ont des doutes dans la foi. Le doute ne va pas vous empêcher d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est qu'un obstacle, il faut le passer. Bienheureux Thomas qui, avec moi, passe le chemin, passe le doute, la barrière qu'il me faut traverser et renverser pour voir notre Seigneur. Alors que fait-il Thomas ? Il va vérifier. Et il va vérifier pour moi. Il va vérifier pour chacun de nous la foi qui nous est annoncée. Je suis bien heureux, moi, que Thomas ait vérifié pour moi. Il va vérifier à travers ses sens. Et le Seigneur, qui le sait, lui dit immédiatement, « Mets ta main dans mon côté, touche l'endroit des clous et vois, j'ai bien un corps et je suis ressuscité. » Par les sens qui sont les fenêtres de l'âme, la foi entre profondément. Les sens qui nous sont une aide profonde pour croire en Dieu. Ce cierge qui est ici, qui est une image du Christ, qui était présent à votre baptême. Je sais qu'à mon baptême, le cierge pascal de l'église où j'ai été baptisé était présent à Saint-Èvre, à Nancy, en 1968. Il y avait le même cierge, muni de l'année ad hoc. Ce cierge va me suivre toute ma vie. Ce cierge est bien matériel, je peux le toucher et je peux le caresser, je peux le contempler. Ce cierge sera là au jour de ma mort, parce que le Christ a promis qu'il serait avec moi tous les jours de ma vie jusqu'au dernier. Ce cierge, tout matériel qu'il est, dans mes sens, il sera encore visible, même au jour de mes funérailles. Quelle joie de savoir que nous avons enfoncé dans ce cierge les 5 plaies du Christ qui sont ici représentés par ces grains d'encens. Car le cierge est une image symbolique du Christ, la cire et la chair du Christ, la mèche qui tient au milieu et qui est la raison d'être de cette construction, c'est l'intelligence, l'intellect du Christ. Et quand elle brûle, c'en est l'âme, celle qui, depuis le haut, va tout consumer, celle qui va nous élever. Oui, c'est dans sa chair que Thomas a pu vérifier vraiment les plaies du Christ. Alors évidemment, la chair, il y en a toujours à qui ça ne plaît pas. Des éthérés, des soi-disant spirituels, qui vous diront « Oh, mais sûrement Thomas n'a pas touché ». Alors j'en sais rien, parce que c'est pas marqué. Mais eux non plus n'en savent rien. Et moi, je suis intimement persuadé, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, que Thomas a touché, qu'il a regardé, qu'il a vérifié pour moi la foi, bon sang de bois. Sinon, le Seigneur lui aurait proposé ça pour rien. C'est idiot, à mon avis, de penser ça. Maintenant, vous pouvez toujours le penser, c'est une possibilité de la foi quand même. Cette foi qui est vérifiée par Thomas, elle est professée et je veux la professer avec lui, mon Seigneur et mon Dieu. Quand vous ferez la profession de foi de Thomas, quand comme lui vous irez peut-être jusqu'aux Indes où son corps repose à Chennai et où il est vénéré, quand vous serez mort pour la foi, alors vous pourrez vous demander si votre foi est à la hauteur de celle de Thomas. Prions Dieu que nous ayons un petit peu
de la foi de Thomas et que nous puissions reconnaître le Christ et le suivre. Ainsi soit-il.